Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 à Fulgence Plat. Au micro est Maurice Bolduc à la technique. C'est la dernière de la semaine, c'est vendredi. Oui, la fin de semaine, une journée un peu plus chaude d'ailleurs, au-delà de 0 degré, ça fait du bien. Ça ne peut faire que du bien. J'ai pas porté de tuque aujourd'hui. Comment vas-tu, Maurice? Ça va? Merci. Alors, en première partie d'émission, j'ai choisi quelques sujets, c'est vendredi. Puis en deuxième partie d'émission, voilà, je reçois Chat Franck, qui est porte-parole de la porte-parole francophone du mois de l'histoire des Noirs. Vous savez, c'est tout le mois de février. Hein. Et donc, elle va venir nous parler pourquoi, comment elle se sent en tant que porte-parole francophone. Elle avait fait une prestation, une chanteuse aussi. On va écouter deux de ses pièces en deuxième partie d'émission. Voilà, et je pense bien que elle sera bien en forme pour nous parler un peu de son rôle de porte-parole de cette édition 2022, qui est la 31e, si je ne me trompe pas. Les détails un peu plus tard. On part en musique avec Loco. Don't call me back. Coco, intéressant ce garçon. Voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'invité, il n'y a pas de chroniqueur, donc j'ai choisi quelques sujets pour vous aujourd'hui. Il y a une première mondiale, One Ocean Summit, c'est le sommet Océan 1, bien sûr on peut traduire comme ça en français, mais le titre officiel c'est One Ocean, ça se passe à Brest en France. Ce qu'il faut savoir, hein, sur ce sommet qui a démarré le 9, hein, ça finit aujourd'hui, c'est déjà en Europe, c'est à Brest, c'est un grand port, hein, c'est la raison. Que cette ville a été choisie d'ailleurs, et c'est consacré à la protection des océans. Enfin, ils ont fait intervenir 500 experts et ambitionnent de donner naissance d'ailleurs à des engagements signés par 35 pays. On espère que ça va donner quelque chose. Il y a des gens qui disent déjà, voilà, pourquoi pas ne pas faire spécialement COP océan. Voilà. Les gens se posent déjà coupe océan. Voilà, on ne sait pas ce que ça va donner, ça, exclusivement. Hein, demain, on va dire coupe désert, coupe forêt, ou bien je ne sais quoi. Quand on parle de coupe, là, ça inclut tout, à ce que je sache. Voilà. Donc, c'est la première fois, c'est une première mondiale. Hein. Donc, c'est la première fois qu'un tel événement comme ça est organisé. Voilà, c'est ce sommet mondial, d'ailleurs, et pour ceux qui ne connaissent pas où est situé Brest, c'est dans le Finistère en France. Hein. Donc cela, ça rentre dans le cadre d'une formule qui existe depuis quelques années, celle de One Planet Summit, là, je me rappelle bien, oui, dédiée au climat. Donc l'idée est d'avoir un groupe de leaders mondiaux très engagés qui viennent pour pousser une cause, expliquer aux gens de quoi il s'agit, quelles sont les décisions que les responsables, les chefs d'État peuvent prendre, tout ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes, Olivier Poivre d'Arvor, qui dit, qui s'est vu confier d'ailleurs la responsabilité de l'organisation, c'est un sommet de l'action océanique. Alors, voilà, bravo à ceux-là, mais j'espère que les actes vont suivre les paroles. Voilà, ça c'est en gros, il suffit pas seulement de faire les grosses réunions, les grosses rencontres, les gros buffets, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, voire. Et puis bon, après, on ne dit rien. Dans l'océan, le grand oublié de la transition écologique, c'est dans ce but-là. Donc, selon Emmanuel Macron, qui a eu le sentiment que l'océan était le grand oublié de la transition écologique, il était important qu'enfin il ne soit pas qu'un sous-dossier des COP. Voilà. C'est ce qui fait que ça a été organisé comme ça rapidement. C'est une première. Hein. Donc, ils essaient donc de construire très concrètement un agenda pour les mois à venir qui devrait accélérer d'ailleurs le calendrier international sur cette question-là. Voilà, quand même, 35 pays, 35 chefs d'État. Ils n'étaient pas tous présents. Il y a d'autres qui étaient en duplex, je ne sais pas, ouais, ils étaient sur le web, quoi, voilà, mais ils ont participé en direct, voilà, mais pas physiquement dans la salle, ils n'étaient pas tous, bon, pandémie oblige, hein. Voilà, c'est ça, donc l'année s'annonce en effet chargée de négociations, il va y avoir un traité international qui devait être signé à New York en mars 2022, bon, avec les États-Unis bien sûr, j'espère, et une conférence des Nations Unies sur les océans, qui est notamment organisée fin juin à Lisbonne, au Portugal. Voilà, c'est les Portugais qui vont le recevoir. C'est ici, ce sommet s'est organisé dans l'urgence. Hein. C'était très, très, très à l'issue d'une sortie en bateau en Méditerranée le 3 septembre 2021 que le président de la République française, Emmanuel Macron, il a annoncé à Marseille la tenue de ce One Ocean Summit seulement 5 mois avant sa tenue. Donc, ça s'est passé très vite. Il y a des gens qui ont été pris du coup, qui ont dit « Ouais, bon, moi, je ne pourrais pas être là. » Quand il dit des gens, je ne suis pas les chefs d'État. Voilà, qui n'ont pas pu se présenter parce qu'ils avaient d'autres agendas. Et donc, tout a ensuite dû se faire en un temps record. Voilà, c'est parti comme ça. Et j'espère que... Est-ce qu'ils ont associé les pêcheurs, les organismes comme Greenpeace et autres, là je... Le sommet s'est passé en 2 temps. Hein. D'abord, il a été divisé en 2 parties. Le mercredi et le jeudi... passé là, ouais, le 9 et le 10 là, place à la société civile, devant des tables rondes, se sont succédées toute la journée aux ateliers, et puis donnant la parole à 600 experts, scientifiques, dirigeants, organismes et ONG dans le secteur du secteur océanique. Transition écologique des ports, impact carbone des navires, responsabilité des entreprises, place des femmes. Chacun de ces ateliers a donné lieu à des résolutions qui seront présenté aux chefs d'État et de gouvernement présents, qui ont été présentés, voilà. Donc, je pense bien que faut pas toujours se mettre à critiquer. Il faut saluer d'abord l'effort qui a été mis en un temps record d'organiser un tel sommet comme ça du chef d'État pour parler d'océan, parce que quand on va... Et ça m'a donné l'impression, quand je suis tombé sur l'article, l'impression que quand on va à les différentes COP qu'on connaît déjà, l'océan n'était pas mis de l'avant aussi. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a eu ce sommet spécial océan. Voilà. Et le temps politique, ça dit que c'est là où les chefs d'État ont pris les paroles aujourd'hui. C'était aujourd'hui, présidé par Emmanuel Macron, le président français. Et il y a une 15aine de chefs d'État. Les autres aussi étaient chez eux, mais sur les écrans. Et de gouvernement en vidéo, visioconférence, comme on dit. Ils sont prêts à, voilà, ils s'engager pour la protection des océans, j'espère. Et comme j'ai dit en début de cette de ce ticket spécial océan d'ailleurs, et il faut pas seulement parler, il faut agir. C'est comme les forêts, changement climatique, ils font des rencontres, on se rencontre là, on fait les gros discours. Après, quand chacun rentre dans son pays, bon ben c'est silence radio, comme on dit, quoi, voilà. Donc il faut que les gens soient prêts à s'engager pour la protection des océans. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui était présente pendant les 3 jours, l'ensemble des débats sont accessibles en plusieurs langues d'ailleurs. Vous ne pouvez pas dire, c'est en espagnol, c'est en portugais, c'est en anglais, c'est en français, je ne comprends pas. Non, tout le monde a le droit. Donc des engagements doivent être pris. Ce sera peut-être les prémices de ce qui avait été pensé avec l'accord de Paris pour le climat, la première pièce d'engagement à l'échelle internationale en faveur des océans. Donc, ces mesures porteront sur 4 thématiques. Voilà. La préservation de la biodiversité, la question de la pêche, la lutte contre les différentes pollutions, bien sûr, les effets du changement climatique et la question de la gouvernance. Donc, l'enjeu aussi géopolitique, afin de montrer la puissance maritime de l'Europe. De l'autre côté, alors que la France vient de perdre la présence tournante de l'Union européenne, le blue washing, je n'en parlerai un peu plus tard. On va en musique avec un autre artiste, voilà, Pete Fortier, mon vieux.
D'été avec mon vieux, on se comptait des histoires sur le bord du feu. On jasait de la vie, de nos philosophies, de tous nos bons coups avec nostalgie. Je lui ai demandé quelle était sa vision, si pour lui ça se peut qu'on soit en mission. Tu penses-tu que la vie c'est un grand voyage, ou ben si on est juste de passage? Il m'a dit, mon gars, la vie c'est une belle grande route, t'as des belles lignes droites et sinueux par bout. Tu vas faire des flats, passer par des détours, tu vas perdre la map par des allers-retours. T'as toujours le choix de prendre le chemin le moins long, on va quand même arriver à destination. C'est la cour de Bourbaisset, mais les bouteilles vides, elles s'empilaient. Les fous rires de s'accumuler, un peu comme l'état d'ébriété. Ça donnait un kick quand j'ai sorti ma guide. J'y ai fait 2-3 tunes que j'avais écrites. On a massacré les tunes de Cat Stevens, mais jamais autant que celle de Clapton. Mon gars, la vie c'est une belle grande route, t'as des belles lignes droites et sinueux par bout. Tu vas faire des flaques, passer par des détours, tu vas perdre la map par des allers-retours. T'as toujours le choix de prendre le chemin moins long, on va quand même arriver à destination. Comme de raison, dans la caisse de bière, on a vu le fond. La corde de bois s'était envolée, mais je vous jure que je vais toujours me rappeler. Qui m'a dit, mon gars, la vie c'est une belle grande route, t'as des belles lignes droites et sinueux par bout. Des flats passés par des détours, tu vas faire la map, faire des allers-retours. T'as toujours le choix de prendre le chemin le moins long, on va quand même arriver à destination.
Voilà, Pete Fortier, mon vieux. Voilà, je continue, voilà, mon blabla, comme on dit, sur ce sommet-là à Brest. Parce que quand on fait un sommet comme ça, il y a toujours des manifestants qui arrivent, des militants écologistes, ils ne sont pas absents. Voilà, ils ne se sont pas du tout absentés, ils sont venus. L'heure de dire aux chefs d'État, bien sûr, aux organisateurs, bien sûr, qu'il y avait quand même une petite centaine de militants écologiques et syndicaux qui se sont rassemblés là, aujourd'hui à Brest, pour dénoncer cette opération de blue washing. Voilà, c'est le thème qu'ils ont employé, blue washing. J'ai mis des vidéos là, ça m'a tellement fait rire, je me suis dit, ils sont présents partout, ils sont au courant de tout, même si ça a été organisé en un temps record, ils n'ont rien raté, ils se sont présentés là, ils étaient là, et puis voilà, il y avait deux gendarmes en fraction de l'autre côté de le rassemblement de la rue, de là où se tenait l'événement, ce sommet là d'ailleurs, et ils n'ont pas fait trop de scandale, mais ils ont scandé quand même, voilà, ils n'ont pas cassé les choses, ils n'ont pas brûlé quoi que ce soit, mais ils ont scandé, voilà, il fallait pas qu'ils se montrent, ils n'étaient pas discrets. Ouais, mais ils se sont fait entendre. Je pense bien que les gens les ont entendus. Voilà, les messages de fond martelés en amont de One Ocean ont été répétés inlassablement. Non à la surpêche, non à l'exploitation des grands fonds pour leurs ressources minières. Et ils ont pleinement raison. Voilà. À bout d'un tapis rouge déroulé sur le sol, une statue d'Emmanuel Macron parodiée en roi de l'hypocrisie. Et à ses pieds. Et une dame qui était là, Gaëlle, qui dit « Je voulais qu'on manifeste et qu'on soit présent pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec cette politique antisociale et anti-environnementale. On exploite la nature, l'environnement, la planète sans penser à demain. Du coup, je suis très inquiète pour l'avenir de mes enfants. » Voilà, son petit garçon de 14 ans qui était avec elle d'ailleurs aussi n'a pas... Il n'est pas resté à la maison, il est venu avec sa maman. Les océans sont l'un des plus grands. C'est l'écosystème de notre planète, et si on n'arrive pas à le protéger, il va y avoir plein de catastrophes. Je ne sais pas à quoi m'attendre, et je suis un peu inquiet pour l'avenir, et donc faut qu'on se bouge un peu là. Bravo garçon, 14 ans. Il y a beaucoup de blabla, il joue avec mon nom de famille là-bas. oui, beaucoup de blabla. J'espère que, il y a Greenpeace qui soutient aussi, à l'instar d'autres ONG, mais aussi de l'Union internationale des conservations de la nature, oui, UICN, du Parlement européen de la grande et de grandes entreprises, la nécessité d'un moratoire sur l'exploration à visée d'exploitation des grands fonds marins. Alors, qu'est-ce que ces gens-là vont... Est-ce qu'ils vont vraiment entendre ? Oui, ils entendent, mais est-ce qu'ils arrivent vraiment à appliquer ou bien mettre en pratique, en œuvre, toutes les décisions qui sont prises au cours de ces genres de sommets ? Oui, voilà, je pense bien que ça va permettre à tous ceux qui étaient présents, aux chefs d'État, de repartir chez eux avec une conscience un peu bafouée par les présents, les gens, les militants qui étaient sur place. Je pense bien qu'ils vont tenir compte de leurs revendications. Ouais, mais la réalité est autre chose chaque fois que les gens sortent de ce genre de sommet, ils passent à autre chose. Il y a un livre que j'aime beaucoup, j'ai fini avec ça, on va revenir là-dessus pour une prochaine rencontre de One Ocean Summit. Oui, il y a un livre que j'aime beaucoup, j'ai reçu la traductrice la dernière fois ici à cette émission, c'est Le super pouvoir de la marche, la science et les bienfaits de la marche sur le corps et l'esprit. Ouais. Oui, je vais vous lire quelques passages pour terminer cette première partie de l'émission. C'est un livre, c'est devenu mon livre de chevet maintenant. Je sais que je marche pas tous les jours, mais je fais ce que je peux faire quand il fait beau. Quand il fait froid, je ne marche pas du tout. Voilà. Les êtres humains présentent une forme unique de bipédie. En termes évolutifs, notre lignée est quelque peu obscure et extrêmement complexe, bien que les réponses à des questions importantes concernant l'évolution de la bipédie humaine émerge depuis les dernières décennies à un rythme rapide. La marche nous relie à notre voyage évolutif, celui de la marche debout, les mains libres, la tête haute et la colonne vertébrale verticale. Je dis bien verticale. Voilà. Alors donc, dans la grande famille des primates, aucun ne marche debout comme nous le faisons. Ça, c'est clair. On a deux jambes, deux pieds. Bien qu'ils puissent se dresser sur leurs membres postérieurs pour se faire voir, scruter les alentours pour se nourrir. Les chimpanzés, les orang-outans et autres grands singes marchent et courent en utilisant généralement leurs quatre membres, ce qui est moins efficace et plus énergivore que la bipédie. Les êtres humains peuvent parcourir environ deux fois plus de distance pour la même dépense calorique qu'un chimpanzé. Par conséquent, oui, pour une quantité de nourriture donnée, l'humain peut se déplacer beaucoup plus loin. Voilà encore une autre façon de dire que la bipédie humaine est plus économique que les formes de locomotion de nos proches parents, les primates. Nous, les humains, occupons une niche écologique intermédiaire. Nous pouvons fourrager le sol et, dans une certaine mesure, récolter les fruits dans les arbres. Nous sommes exceptionnellement bien adaptés pour chasser des espèces herbivores au moyen de la chasse à l'épuisement qui consiste. La course à vitesse modérée et sur les longues distances, conjuguée à la marche, permet de franchir de grandes étendues à un coût relativement faible en énergie. Voilà. Un autre avantage de la bipédie, hein? Oui, un autre avantage, c'est lequel? Il faut que j'en parle. Que confère la bipédie, surtout dans des conditions de grande chaleur, puisque la course à pied requiert de l'énergie, oui, et pénètre, je dis bien, de l'énergie et génère de la chaleur. Le coureur a besoin de beaucoup de liquide pour réguler sa température par la transpiration. Ouais, le mot sapiens, ça c'est... Ouais. Et puis les aliments riches en gras et en sucre, en énergie, sont facilement accessibles dans les économies de marché occidentales. Ce n'est pas le cas pour les Asda. Augmenter les niveaux d'activité pour qu'ils correspondent à celui des Asda n'est pas en aucun cas une solution simple à l'épidémie d'obésité qui sévit dans une grande partie du monde. L'obésité, voilà, c'est dû aussi au fait, peut-être, que manque de mouvement, les gens qui sont tout le temps chez eux, assis devant l'écran, devant la télé. Donc, il faut bouger. Ouais, le mouvement est bon pour nous. Est-ce que l'activité physique régulière serait une forme d'automédecine? C'est la question qui est posée. Oui. Le biologiste Daniel Lieberman de l'Université de Harvard livre une perspective évolutionniste importante sur l'étrange relation que nous entretenons avec l'activité physique. Il faut le faire. Marcher, c'est bon. Même si celle-ci est bonne pour nous, nous avons tendance à l'éviter afin d'économiser de l'énergie, pour la simple raison que c'est de cette façon que nous avons évolué. Oui. Jusqu'à tout récemment dans l'histoire humaine, l'activité physique était indispensable et les sources de nourriture étaient rares. Ça c'est clair. Comme le dit Lieberman, les humains ont évolué pour s'adapter à une activité physique régulière et modérée jusqu'à un âge avancé. Parce que l'énergie provenant de la nourriture était limitée, les humains ont également été sélectionnés pour éviter tout effort inutile. Ouais, marcher, voilà. Ça fait du bien, ça ne peut faire que du bien. Ça fait du bien à l'esprit, à l'âme, au cerveau. Ouais, ça c'est ce qu'il faut dire. Hein. Ce livre est du neuroscientifique Shane O'Mara, qui est irlandais, ça a été traduit par deux collègues qui nous ont permis d'avoir cette version française, traduction par Paul Marcel Adam et Lison Lescabeau. C'est en librairie. Allez-y vous procurer la science et les bienfaits de la marche sur le corps et l'esprit. Le super pouvoir de la marche. On va en musique pour terminer cette première partie de l'émission.
T'écouter sur ta voix, son corps danser, danser dentelle, vie revoltée, l'effet d'un corps de ballet. Papa, tu as pris la route sans dire adieu. Papa, tu as laissé son corps, je t'en veux. Ça fait mal de vivre sans toi. Et la mare, tu ne t'imagines même pas comme ça fait mal de rire sans toi. Et la malitude reviendra pas. Qu'elle était belle à tes côtés. Dans son regard je voyais que tu faisais d'elle un conte de fées. Sur toi elle se reposait. Papa, tu as pris la route sans dire adieu. Papa, tu as laissé son cœur, je t'en veux. Ça fait mal de vivre sans toi. La malitude, t'imagines même pas. Comme ça fait mal de rire sans toi. Son sourire appelle au secours. Il est sans amour. Ça fait mal de vivre sans toi. Et la malitude, t'imagines même pas.
Christophe Maé, ça fait mal. Restez à l'écoute après la petite pause publicitaire et la première pièce musicale. Je reçois, voilà, la porte-parole francophone du mois de l'histoire des Noirs, Cha Franck. Restez à l'écoute, à tout de suite.
Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Would you ride, would you die, die, die for me?
Aisha Frank, Ride or Die. Alors là, c'est la personne qui est au bout du fil qu'on va entendre tout de suite. C'est la porte-parole francophone de l'édition 2022 du mois de l'histoire des Noirs, la 31e édition. Aisha Frank, je suis très heureux de t'avoir ici là pour parler de cette 31e édition. Quand tu écoutes ta pièce comme ça, comment tu te sens?
je me sens très chanceuse d'entendre ça sur la radio comme ça.
Tu dis,
très contente.
Tu dis, mais c'est moi ça? Bravo, bravo, j'ai vu pas mal de vidéos de toi. Non, mais tu as du talent, je te le dis, hein, Franck. Ah oui, le talent est là. Le talent est là. Il faut que tu tombes sur la bonne personne pour te propulser là, voilà.
Ça s'en vient. On a du nouveau matériel qui s'en vient.
Ah ouais, d'accord. Alors, vous entendez sa voix, c'est Aisha Frank, porte-parole francophone du mois de l'histoire des Noirs pour la 31e édition. Alors, comment tu as réagi quand ils t'ont approché?
Oh mon Dieu, j'étais sous une espèce de mélange de choc, de gratitude et de fierté.
Oui.
Écoute, j'ai toujours été impliquée à Montréal-Nord avec le mois de l'histoire des Noirs. J'ai performé là-bas à la Maison de la culture de Montréal-Nord.
Oui.
Donc là, maintenant, de savoir qu'on m'approchait pour être la porte-parole francophone pour le mois de l'histoire des Noirs, c'était quand même quelque chose de gros.
Moi, je vais chanter, c'est tout, je ne vais pas être porte-parole.
Non, c'est pas vrai, j'étais très fière de le devenir et puis j'ai accepté avec...
Bravo, merci de ton engagement. Merci de ton engagement. D'ailleurs, une citation de toi. Tu dis... Tu y vois un devoir de mémoire. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est une célébration où l'on souligne nos réussites pendant que le micro est tourné vers nous. C'est aussi un moment opportun pour amplifier nos voix, continuer d'honorer nos racines, faire le point sur ce qui nous sommes et partager notre culture avec les autres.
Exact.
C'est très poétique aussi, hein? Alors, quel est le rôle de la porte-parole francophone au sein de, durant ces 30 jours, ces 28 jours du mois de février, quel est ton emploi du temps?
En fait, en ce moment, étant donné qu'il y a la pandémie et qu'il y a les restrictions, tu sais, bon, j'ai des entrevues téléphoniques comme je fais avec toi aujourd'hui. Est-ce que je peux te tutoyer?
Ah oui, je te tutoie, tu me tutoies. Okay. Oh, ouais.
Parfait, on aime ça. Alors, c'est ça, donc, c'est de représenter cet événement. D'en parler,
oui.
Surtout sur les réseaux sociaux aussi, de partager les événements qui font partie de la programmation. Il y en a des très, 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 très beaux événements qui se passent. Donc, de partager le plus possible. Quand on a besoin de parler, quand les médias ont besoin d'en savoir un peu plus, donc c'est soit moi qui vais appeler ou sinon ma co-porte-parole qui est la porte-parole anglophone,
oui, oui.
Rowan Higgins, qui est une poète très, très, très talentueuse.
Ouais.
Donc, toi, tu pensais que j'étais poétique dans mon texte.
Ouais.
Tu vas lire les textes de Rowan.
Oui, j'en ai lu quelques-uns, mais comme c'est pas une émission anglophone, je peux pas l'inviter, quoi.
Okay, je suis là pour nous deux.
Voilà, c'est ça. Allez, je te laisse continuer. Vas-y, je t'écoute. On t'écoute.
Ah, eh bien, c'est ça. Fait que c'est vraiment de porter à l'avant-scène un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame, d'encourager les gens à aller sur le site web pour regarder la programmation. On apprend aussi sur nos lauréats.
Oui.
Il y a des émissions de télé aussi qui sortent. Il y a des spectacles qui se produisent. Donc, c'est vraiment d'en parler, d'être présente quand on a besoin de faire appel à moi.
Oui.
Et ça se résume un peu à ça.
Oui. Bien occupé, hein?
Quand même assez. En plus de ça, j'ai ma carrière. Je continue à travailler sur ma musique. Je prépare des nouvelles choses qui vont sortir bientôt.
Oui.
Justement, à la fin du mois, j'ai une de mes chansons. Dans le fond, Ride or Die qu'on écoutait, eh bien, j'ai une reprise avec Impost. Donc, on va sortir ça le 24 février et aussi, je me prépare pour un spectacle qu'on fait pour à l'occasion de la clôture du mois de l'Histoire des Noirs le 25 au Club Soda.
Au Club Donc, Soda. Virtuel ou bien en présentiel? Puisque
ça va être en présentiel, monsieur.
Ok, j'aime pas trop ce mot, mais oui. Ça dit que c'est en présence physique, quoi. Ça dit en salle, je veux dire.
En présence. Avec un public en chair et en os devant nous.
Voilà, c'est un tissu en cellule.
Et on croise les doigts. On croise les doigts pour que ça puisse vraiment, vraiment se passer en présentiel.
Oui, alors, ça a commencé depuis le 1er. Nous sommes au 11 aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Oui. Le 11 du mois. Comment ça se passe? L'événement se passe très bien. Moi, j'ai pas tout vu. J'ai vu quelques événements, mais je peux pas tout suivre en même temps.
Oui.
Mmh. Le déroulement. Parce qu'il y a
le
beaucoup.
Le déroulement, ça se passe. Oui.
Oui, ça se passe. Beaucoup se passe en ligne pour l'instant là.
C'est ça. Bon, donc il y a des événements qui se passent en ligne et il y a aussi des événements qui se passent en personne.
Oui.
Et il y en a qui sont gratuits, il y en a certains qu'il faut acheter les billets.
Oui.
Donc vraiment, comme pour avoir une meilleure idée, il faudrait se rendre sur le site web.
Sur le site du mois de histoire des noirs.com. Voilà, pour voir toute la programmation.
C'est
vraiment facile. C'est ça, c'est
exactement.
Ça.
Exactement. La première chose qu'on voit, c'est la programmation. Tu cliques ici, puis après ça, tu vas pouvoir regarder, voir tout ce qui se présente. Moi, les événements plusieurs des événements qui m'intéressent énormément, dont un auquel j'ai pris part, c'est l'exposition hip-hop, donc Vision Hip-Hop au Centre Phi,
oui.
Qui commence aujourd'hui, en fait, et qui se poursuit jusqu'au 26 mars.
Oui.
Et on a aussi la 14e édition du Festival des films et arts de Massimadi, qui est le seul festival afro queer canadien.
Oui.
Donc, lui aussi, il se passe en ligne. C'est gratuit. Mm-hmm. Ça a commencé aujourd'hui, le 11 février, puis ça continue jusqu'au 11 mars. Et puis après ça, un autre auquel que celui-là, je trouve très, très, très intéressant, ça se passe dans le Metaverse.
Ouais.
Donc, tu t'inscris, les billets sont gratuits, puis après ça, tu peux aller chercher, je pense que c'est quelque part sur Saint-Hubert, sur la rue Saint-Hubert, un casque de réalité virtuelle auquel tu glisses ton téléphone à l'intérieur pour assister. Il y a trois conférences durant le week-end, le 12 février et le 13 février.
Oui.
Donc, tu vas pouvoir y assister dans le confort de chez toi, avec ton casque dans les yeux, et puis tu as une petite manette aussi, où est-ce que, genre, j'imagine que tu vas pouvoir te promener dans la salle pour pouvoir assister aux conversations.
On va écouter une deuxième pièce de toi, Not My Type, pas mon genre. Et puis au retour, on va commencer.
C'est pas mon genre, mais je t'aime bien.
Oh, ouais, voilà. Ah oui,
c'est ce que je veux
dire. Ouais, Chef Frank, Not My Type. Alors, on va écouter cette pièce, et puis on revient sur le thème de cette année, honorer le passé et inspirer le futur. On va parler un peu de ça.
All it took was a sound. I heard my heart hit the ground. You're not my type, but you're the one. Hey, you're not my type, but you're the one. One out of you, one out of you, and it's done. Monday. What you've been through and what I've been through, now it's done. And all it took was a sound. I heard your heart hit the ground. You're not my type, but you're the one. One plus two plus three. Living it up. Talk to me. Talk to me. Was a sound I heard your heart.
Ça, c'est mon coup de cœur dans ton répertoire.
Ça. Ah oui, ah, je suis contente d'entendre ça. C'est une de mes chansons préférées aussi.
Ouais, c'est vraiment ta voix, la guitare, le piano en arrière. Surtout que j'adore l'acoustique, là, vraiment. Pour moi, c'est venu me chercher quoi, quand je l'ai écouté la première fois. Là. Et puis, j'ai mis ça sur ma playlist de ma voiture. J'ai dit, mais non, je ne peux pas.
Yes.
Alors, on va parler d'abord de... du thème de cette année, honorer le passé et inspirer le futur. Et puis, vers la fin, on va parler un peu de ta carrière personnelle musicale de chanteuse. Honorer le passé et inspirer le futur. Comment tu peux expliquer ça un peu à ceux qui nous écoutent là?
Eh bien, le titre le dit vraiment bien. C'est dans une première partie, ce mois-ci, on va honorer le passé. Donc, c'est vraiment d'honorer notre culture, de nos ancêtres.
Oui.
Ce qu'on est dans nos racines à nous. On vient tous de différents coins du monde,
oui.
Mais c'est vraiment de réaliser à quel point on est parti de loin pour être où est-ce qu'on est aujourd'hui, à quel point il y a une multitude de sacrifices qui a été fait,
oui.
À quel point les temps ont changé.
Oui.
Et puis après ça, dans un deuxième temps, on apprécie, on prend conscience de notre héritage,
oui.
Et on regarde vers le futur. Mm-hmm. Donc on regarde en avant de nous. On regarde vers la montée vers laquelle on est en train de se bâtir.
Oui.
Et puis c'est d'inspirer les générations futures, c'est d'inspirer les plus jeunes de pouvoir bâtir une communauté, une société où est-ce que, écoute, c'est un terrain glissant dans lequel on peut facilement se perdre, mais vraiment de réduire tout le malaise qui tourne autour du racisme, aussi de pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de représentation. Si on peut avoir des jeunes qui se regardent à la télévision et qui se voient, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, écoute, c'était rare que tu voyais qu'il y avait des émissions que c'était All Black, ou bien comme s'il y en avait une ou deux ou trois, puis maintenant, de plus en plus, que ce soit dans les dessins animés, que ce soit dans les films, des films avec des vraies personnes.
Oui.
Et c'est très, très, très intéressant de voir à quel point les jeunes se reconnaissent à la télé, et puis on peut bien parler de la télévision, mais on peut parler aussi des jouets.
Mm-hmm.
Maintenant, là, tu vas au Canadian Tire, tu trouves des lutins noirs pour décorer ton arbre de Noël, les poupées, les Barbies, tout ça, c'est comme en train de changer, puis je trouve qu'il faut continuer à pousser cet agenda-là.
Oui, on en voit de plus en plus noir, oui, oui.
Exactement.
Les poupées, les Barbies noires.
Ouais, exactement, puis ça permet à nos enfants, aux jeunes adultes, de pouvoir s'identifier,
oui.
Plus facilement, puis de concevoir plus facilement aussi leur place au sein de la société, de voir, de permettre de planter un espoir dans leur tête qui va grandir et qui va les pousser eux à poser des actions qui vont encore plus changer la façon que les choses sont en ce moment.
Et surtout ne pas se sentir inférieur aux autres.
Ah, c'est la clé. C'est la clé. Si on fait tout ça, c'est justement pour pouvoir enfin hisser sur un même pied d'égalité et arrêter de se sentir comme si on devait se conformer à quelque chose.
Voilà, être fier de la peau noire.
Être fier de notre héritage, de notre peau, de notre cuisine, de nos cheveux. Écoute, ça va loin. Là.
La liste est longue. La liste est longue. Oh, la liste est longue. Ouais, l'histoire des Noirs au Canada, merci. Les Canadiens noirs et leur communauté ont contribué à façonner le patrimoine et l'identité du Canada. Depuis l'arrivée de Mathieu Da Costa, le navigateur et interprète dont la présence au Canada remonte au début des années 1600. C'était l'interprète de Champlain, Da Costa.
Oh, là, tu m'apprends quelque chose.
Il y a une
rue. Tu m'apprends quelque chose.
Ah oui, c'était pas un esclave, c'était un traducteur. Il voyageait souvent en Amérique du Nord et il travaillait beaucoup avec les Hollandais qui étaient de grands navigateurs. Et puis bon, c'est l'équipage de parce qu'il parlait le langage des autochtones, il parlait et c'est lui qui pouvait traduire.
C'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on nous apprenne à l'école. Tu sais, je crois que c'est en secondaire 4 parce que tu apprends l'histoire du Canada et tout. Comme c'est quelque chose que j'aurais voulu qu'on apprenne.
Non, ça n'est censé pas dans les écoles. Il y a une rue à Québec qui porte son nom maintenant.
Ouais.
Dans la vieille capitale. Alors, Mathieu.
Espérons que ça sera quelque chose qui change, parce que je trouve que c'est une richesse qu'on gagnerait ajouter dans le curriculum.
C'est ça, il parlait plusieurs langues. Son père portugais, sa mère noire africaine de l'Angola, du côté de l'Afrique centrale. Là. C'est comme ça qu'il a appris les langues européennes et puis bon, d'autres langues aussi. Quoi. Et comme il était traducteur, et puis il était très bien payé en plus à l'époque. Hein, et l'équipage de Champlain a appris qu'il y avait ce noir là sur un bateau hollandais. Ils sont allés le kidnapper en plus.
Wow.
Sinon, ils ne pouvaient pas communiquer avec les autochtones. Ici, lui, il parlait le langage des autochtones.
Oh,
il ne me demande pas comment il a appris ça, parce qu'il avait l'habitude de venir avec les Hollandais et autres là en Amérique du Nord. Donc, il a appris à communiquer avec les autochtones sur place. Bon, c'était une parenthèse que je voulais faire. Quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur le site du Patrimoine Canada. Hein. Ces infos-là, oui. Ça sort pas d'un chapeau de magicien, là. Alors, on va parler un peu de la carrière de... Voilà, je fais d'une pierre deux coups en même temps. Hein. Musicalement, parle. Et puis, Cha est né à New York, de parents haïtiens.
Oui,
oui.
Oui.
Il nous reste 2 minutes rapidement. Oui, et puis, j'ai dit, mais elle est née à New York, et puis elle a grandi où? À Montréal, ou bien en Haïti, ou bien à New York? Comment?
J'ai grandi à Laval. Je suis née, OK, donc mes parents sont haïtiens, je suis née à New York, Brooklyn, et puis après ça, à l'âge de 3 ans, j'ai déménagé ici à Montréal, et on a déménagé à Laval. Par la suite. J'ai grandi à Laval.
C'est une Lavaloise.
Je suis une Lavaloise.
Alors, la musique? Rapidement, il nous reste 1 minute et demie. La musique,
comment c'est venu? Mon oncle avait sa carrière en Haïti. Ça a été une grande source d'inspiration. J'ai commencé, moi, dans la musique. Après ça, je suis allée en droit, faire mon bac en droit à l'Université de Montréal.
Oui.
Et pour ensuite retourner vers la musique, parce que c'était mon premier amour. Et là, fast forward, si on avance dans l'histoire, j'ai sorti mon premier EP, mon premier projet qui s'appelle Stellaria Story, qui est disponible sur les plateformes quand vous cherchez Cha Frank.
Oui.
Et en ce moment, j'ai pris une année sabbatique l'année qui vient de passer, 2021, pour pouvoir travailler dans le milieu du cinéma, qui est une autre de mes passions. Et ensuite de ça, bon, cette année, je me prépare à sortir de la nouvelle musique. Je suis très excitée. Je vais aussi sortir ma première chanson en français.
Je peux comprendre. Parce que tout ce que j'ai écouté, c'était en anglais. Oh là là, 30 secondes. Merci beaucoup, Cha Frank. Merci beaucoup, porte-parole francophone de la 31e édition du mois de l'histoire des Noirs. J'espère que quand tu vas sortir ton premier album, là, tu vas passer me voir, hein.
Absolument, si tu m'invites, je suis là.
Voilà, merci beaucoup à toi, Cha Frank.
Merci à toi.
À bientôt.
Très bonne soirée.
Merci à toi aussi.
Au revoir.
Bon mois de
l'histoire des Noirs.
Merci, au revoir.
Yeah. still African. If I keep I'm real African. They don't know what breakfast to be African and African. Anyone step here right now?
Avec la complicité de Burnaby, Do Yourself. Oh, quelle générosité musicale! Merci à toi, Maurice Bolduc. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à Chat Franck, la porte-parole francophone de la 31e édition du mois de l'histoire des Noirs. Ça continue jusqu'à la fin du mois de janvier. Allez-y sur le titre pour avoir toute la programmation là-bas. Et vous, chers auditeurs, fidèles auditeurs, je vous dis merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Bonne Saint-Valentin, déjà, on peut souhaiter, voilà, c'est vrai. Alors, de toute façon, j'ai une préparation spéciale pour la Saint-Valentin le lundi, parler d'amour, et sur ce, et je dis merci à la recherchiste de cette émission, Catherine Baudron, et je vous dis ciao.